Bonjour à tous et à chacun. Je vous invite à lire avec moi le chapitre 15 de l'Évangile selon Matthieu. C'est dans les 20 premiers versets de ce texte que nous trouverons l'objet de notre méditation de ce matin. Matthieu 15, à partir du premier verset. À cette époque, des pharisiens et des interprètes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » « Vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu lui-même pour suivre votre tradition ? En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère » et « Que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister. » Et que celui qui fait cela est quitte de ce qu'il doit à son père ou à sa mère. Vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Hypocrite. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. » Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Il leur répondit, « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Pierre intervint en disant, « Explique-nous la comparaison de tout à l'heure. Et quoi ? Répondit Jésus. Vous aussi, vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, aux calomnies, aux blasphèmes. Voilà qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Nous abordons donc une question posée à Jésus, celle que nous venons de lire nous surprend. Le début de ce récit est étrange pour nous. Le contexte est difficile à comprendre aujourd'hui. Quel est ce problème qui justifie qu'une délégation de pharisiens et d'interprètes de la loi fasse le voyage de Jérusalem jusqu'en Galilée pour interroger Jésus à ce sujet? Quel est ce grand problème? Respect de la tradition des anciens. Importance de se laver les mains avant de prendre son repas. On s'adresse à Jésus comme à un chef d'école rabbinique. Son enseignement particulier et sa pratique, celle de ses disciples dont il est responsable, suscite le débat. Débat d'interprétation qui sont des débats habituels. La tradition des anciens. C'est une tradition orale, transmise par les grands rabbins, considérée comme le supplément et souvent l'interprète des Écritures. Ce n'est pas ce qui est dans le texte biblique. C'est le commentaire qu'en font les rabbins, les grands rabbins. Plus tard, cette tradition codifiée et écrite, qu'on appelle la Mishnah, aura une autorité de plus en plus grande et pratiquement une autorité égale à celle de la loi. Tant il est juste que la manière de comprendre la loi et de la mettre en pratique est essentielle. C'est donc cela l'objet de la question et l'objet du débat. Le lavement des mains avant le repas. La loi ne contient pas cette prescription. Elle ne dit rien à ce sujet. Elle donne des préceptes de purification rituelle pour les prêtres, dans certains cas où ils sont amenés à pratiquer des actes du culte. C'est ce qui nous est rapporté dans Lévitique 22. Les pharisiens ont étendu l'application de ces préceptes et en ont rajouté beaucoup d'autres. C'est ce que nous dit l'évangile de Marc dans le texte parallèle à celui que nous méditons ce matin. Ils ont ajouté toutes sortes de préceptes, d'ablutions, de lavage pas seulement des mains, mais des coupes, des plats, etc. Les ablutions rituelles, les bains ou les lavages de purification sont communes à beaucoup de religions. Derrière les questions que les chefs religieux juifs posent à Jésus, il y a presque toujours des préjugés, des intentions souvent malveillantes. Parfois, c'est dit même dans le texte. Ils interrogeaient non pas pour savoir ce qu'ils pensaient réellement de quelque chose, mais pour essayer de le prendre dans un piège. C'est cela, souvent, qui était leur intérêt et l'objet de leur recherche, plutôt qu'un vrai désir de connaître et de comprendre l'enseignement de Jésus. C'est ce qui explique la façon dont Jésus répond à cette question des pharisiens. La réponse de Jésus. La parole de Dieu ou votre tradition? Et Jésus répond en deux temps. D'abord, il démontre la désobéissance des pharisiens et des anciens du peuple par rapport aux préceptes que Dieu donne. Et ensuite, il formule à l'égard de ces pharisiens et de ces chefs du peuple une accusation de religion formelle, non pas du cœur, mais de la pratique des préceptes visibles. Et vous, leur dit-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu lui-même pour suivre votre tradition. Et il fait la démonstration que nous avons lue, et il conclut en disant « Ainsi, vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. » Voilà le vrai problème. Ce n'est pas le fait de savoir si les disciples se sont lavés ou pas les mains avant le repas. « Hypocrite, dit-il, dit Jésus, de ces hommes-là, car il y a un écart entre l'affirmation de vouloir plaire à Dieu et l'opposition qu'ils font en disant ce qu'ils disent, cette opposition de fait à sa volonté, à la volonté de Dieu. Ésaïe vous a fort bien dépeint, dit Jésus aux pharisiens, dans sa prophétie. À partir de là, nous devons, en nous mettant provisoirement à la place de ces pharisiens, tirer des leçons de ce que Jésus vient de dire. Ils ont la responsabilité d'entendre cette parole qui leur est adressée, même si elle est dure, même si elle les secoue. Ils ont reçu cette parole. Quelle suite vont-ils lui donner? Cette question est essentielle. Quelle est la consistance de votre religion? Quelle est la substance de votre piété? Dit Jésus aux pharisiens. Quel est votre culte? Quels sont vos règles? On peut honorer Dieu de diverses manières. Mais là, dans ce contexte, on peut honorer Dieu du bout des lèvres ou du fond du cœur. C'est très différent. Honorer Dieu du bout des lèvres ou du fond du cœur, point d'interrogation. Le cœur, c'est bien sûr le mot qui désigne à la fois le plus profond et le plus complet, le plus caractéristique de l'être. Le cœur est la véritable identité de la personne, sa réalité et non son apparence, ce qu'elle est vraiment et non ce qu'elle donne à voir. La question est très importante, elle est même fondamentale. Pour hier, comme pour aujourd'hui et pour toujours. À ta religion formelle et légaliste ou attachement à Dieu, écoute et obéissance à sa parole. Les traditions religieuses, elles ne sont pas toutes rejetées par principe. Mais elles sont jugées par rapport à la parole de Dieu. Ces traditions, celles qui s'opposent à la parole de Dieu, ce sont celles qui sont rejetées, qui doivent l'être. Jésus qualifie les traditions des pharisiens de traditions uniquement humaines. Les sadducéens, par contre, rejeter la tradition en tant que telle. On ne peut pas vivre totalement dégagé de tradition. Tout groupe humain du type de ce que nous regardons, et même du nôtre, tout groupe humain fabrique ses propres traditions. C'est-à-dire ses propres manières de comprendre et de pratiquer la piété chrétienne, en ce qui nous concerne. Ceux qui prétendent vivre sans tradition, ceux qui disent pouvoir et vouloir tout réinventer à chaque fois, ou tout improviser sous l'inspiration du moment, ceux-là sont autant dans l'erreur que ceux qui sacralisent la tradition. Jésus amène sur ce sujet sa réflexion essentielle. Et que devient la notion de pureté qui est en cause ici? Voilà l'explication de Jésus sur la pureté. Elle se fait en deux temps. Il s'adresse à la foule, « Comprenez ce que je viens de dire », et il s'adresse d'une façon encore plus précise aux disciples après la question de Pierre, mais aussi bien à la foule qui continue à l'interroger que aux disciples qui veulent comprendre. Jésus dit « Vous aussi, vous ne comprenez pas. Vous aussi, vous ne comprenez pas. » Après avoir dit ce qu'il avait à dire à ceux qui étaient venus l'interroger et à tout le peuple, Jésus se tourne vers la foule qui se trouve autour de lui et qui a entendu la question et la réponse. « Écoutez-moi et comprenez-moi bien, » dit Jésus. C'est un appel à donner l'importance que méritent les paroles que Jésus est en train de leur donner. Écoutez-moi bien, comprenez-moi bien. C'est important d'entendre cette parole de Jésus parce qu'elle vient souligner avec force l'importance de ce qu'il dit et la nécessité de le comprendre, ce qui peut impliquer la continuation de l'interrogation. Il y a des étapes, et quand on ne comprend pas, on continue à interroger. Qu'est-ce que tu as voulu dire en disant cela? Compréhension par étapes, mais nécessité de bien comprendre. Ce qui rend un homme impur, dit Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. C'est une parole sous forme proverbiale, d'allure imagée et tout de même énigmatique. Comment comprendre? Cette affirmation de Jésus appelle réflexion et explication. Ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Comme souvent dans les paraboles, Jésus en donnera l'explication particulièrement à ses disciples. Ce qui entre dans la bouche, ce sont les aliments. Ce qui sort de la bouche, ce sont les paroles, c'est-à-dire l'expression des pensées et des sentiments. Ce n'est pas du tout du même ordre. Donc probablement, il ne s'agit pas de la même pureté. La pureté attachée au fait de se laver les mains est la pureté physique, autrement dit la propreté, qui a son importance, bien sûr. Mais pour les pharisiens, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. C'est d'une pureté rituelle, c'est-à-dire d'un geste, d'une série de gestes à accomplir pour être conforme à leur tradition et pour eux, c'est à leur religion. C'est une pureté rituelle et il y a sur ce sujet beaucoup d'autres ablutions qui sont des actes religieux prônés par la tradition des pharisiens. Et puis il y a un troisième type de pureté. C'est la pureté morale, la pureté physique, la pureté rituelle et la pureté morale. C'est celle qui est gâchée par le péché et restaurée par le changement de cœur et d'esprit. Et c'est là que Jésus porte le regard, veut que ses auditeurs portent le regard, parce que c'est cela qui est de la première importance. vous avez besoin d'être purifié. Nous avons besoin d'être purifié. Tout être humain a besoin d'être purifié. Et comment ? Jésus le dit explicitement, par la parole. Il dit, dans Jean 15, au verset 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le fait que vous ayez entendu et reçu cette parole que je vous ai apportée a commencé à exercer en vous une œuvre de purification. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et voilà le cœur du débat de Jésus avec les pharisiens. Les pharisiens ne sont préoccupés que par la pureté rituelle. Jésus, après leur avoir montré le caractère superficiel, formel, et finalement contraire à la parole même de Dieu de leur religion, dit à tous quelle est la véritable impureté, celle dont il faut être purifié, et où se trouve cette impureté et le remède à cette impureté. Les mots nets de Jésus aux pharisiens et à leurs propos, ils ont été choqués, disent clairement leur situation actuelle et leur responsabilité. Elle est particulière parce que ce sont les chefs religieux et parce que le peuple est appelé à suivre leur enseignement. Ce n'est pas un rejet de la part de Jésus, c'est un constat. Les pharisiens savent tout ce qu'il faut faire pour avoir la vie. Il leur dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà le problème. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et puis, lorsqu'ils sont rentrés, les disciples, à la maison avec Pierre, il y a encore ce prolongement où Pierre dit à Jésus, explique-nous le sens de la comparaison de tout à l'heure. Et Jésus, là encore, appelle l'attention de ses disciples. Vous aussi, vous ne comprenez pas. Point d'interrogation. Avez-vous pris le temps de réfléchir? Si vous ne comprenez pas, demandez-le-moi. Je vous explique. Lorsque Jésus fait des reproches à ses disciples, c'est souvent à cause de leur manque de foi. Nous avons plusieurs exemples de cette nature. Ils relèvent qu'ils ont manqué de foi. Mais, pas seulement. Il leur reproche aussi leur manque de compréhension. Leur manque de compréhension. Donc de réflexion. Donc de méditation de sa parole. Leur manque de mémoire de ce que Jésus a fait. À un autre moment, il leur dira, vous avez oublié la multiplication des pains. La perception du sens des paroles de Jésus et du sens de l'action de Jésus sont l'objet, doivent être, l'objet permanent d'étude de ses disciples. Le processus décrit par Jésus n'est pas évident. Il dit, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. Pourtant, il arrive que on se salisse les mains et qu'on soit obligé de les laver. Donc, une certaine forme de purification des choses venant de l'extérieur est nécessaire, bien sûr. C'est vrai physiquement. Mais c'est vrai aussi moralement. Voir le souci légitime des parents pour tout ce qui influence leurs enfants. C'est normal de savoir quelles sont leurs fréquentations. Car, selon le proverbe, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelle influence est celle qui s'exerce sur toi? Et quel crédit accordes-tu à ce que tel ou tel te dit ou fait devant toi? C'est important. Le discernement est essentiel, car il nous amène à accueillir le bien et à rejeter le mal. C'est basique aussi dans notre comportement et dans notre éducation, bien entendu. Comment comprendre alors ce processus décrit par Jésus? Ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui vient de son cœur et qui sort de sa bouche. Et là, Jésus ramène le regard vers ce qui est essentiel, ce qui est au plus profond de chacun de nous, de notre être. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. D'ailleurs, nous lisons dans le psaume et dans les proverbes cette importance essentielle du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit le sage des proverbes. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'impureté qui a son origine dans le cœur humain se manifeste par de mauvaises pensées et s'exprime par de mauvaises paroles et des actes mauvais, dont Jésus énumère quelques exemples. Mais dans le texte parallèle du livre de l'Évangile selon Marc, il y a encore un développement plus grand de ces paroles mauvaises, calomnies, mensonges, etc. Et Jésus d'ajouter, voilà ce qui rend l'homme impur. Il exprime la partie de son cœur qui est expression du péché qui est en lui. Voilà ce qui rend l'homme impur et ce qui fait qu'il peut contaminer ceux qui sont autour de lui par cette impureté. L'homme est impur par nature. Jésus aurait pu se contenter de cette constatation. Pourquoi dit-il que ce qui sort de la bouche de l'homme le rend impur? Il y a plusieurs niveaux d'impureté. Il y a cette impureté de nature qui vient du fond de l'être. Et puis il y a cette impureté d'action qui peut contaminer les autres, en particulier les enfants qui sont à notre contact, qui sont confiés à notre éducation. Et cette impureté, l'être humain en est responsable. Qu'est-ce qu'il exprime par ses paroles et par ses actes? Est-ce que ce sont des choses de l'ordre de son impureté naturelle ou de notre impureté naturelle, ou est-ce que ce sont des paroles et des actes qui viennent de l'être régénéré? C'est un processus par étapes. Nous connaissons la parole de Jacques qui dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». La tentation vient de notre cœur, du plus profond de nous, de la convoitise qui est en nous. Ce sont les mauvais désirs qui viennent de notre intérieur, ce que nous portons en nous, qui nous attirent et qui nous séduisent, dit l'apôtre Jacques. Que faire donc à partir de là? Prendre conscience de ce qui se passe en nous, réfléchir, oui, réfléchir, et en tirer des conséquences. Penser, c'est le propre de l'être humain, et c'est encore plus le propre du chrétien. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui réfléchissent ? Est-ce que nous sommes des êtres humains qui réfléchissons ? C'est le propre de tout être humain. Réfléchir avant de parler, par exemple, réfléchir avant d'agir. C'est un des problèmes de toujours. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est un problème d'une acuité particulière aujourd'hui. Combien de manque de réflexion dans ce qu'on entend ? Le nombre impressionnant de personnes qui ne réfléchissent pas, qui parlent trop vite, qui parlent avant de réfléchir, qui agissent avant de réfléchir. La disparition de ce filtre indispensable entre le sentiment et la parole ou l'action cause des dégâts considérables. Je me permets de répéter que la disparition de ce filtre nécessaire de la réflexion entre le sentiment et la parole, ou entre le sentiment et l'action, cette disparition cause des dégâts considérables. Les conséquences des comportements impulsifs, non réfléchis, sont entre autres la multiplication des incompréhensions, des ruptures et des violences, qui sont des éléments de désagrégation de notre lien social. La réflexion, c'est ce que l'Ancien Testament appelle la sagesse, et que le Nouveau Testament appelle aussi la sagesse. La sagesse du Seigneur, qu'il se propose de nous communiquer, de nous donner. L'insensé, ce n'est pas le fou, mais c'est celui qui ne réfléchit pas. Et celui qui réfléchit, c'est ce qui permet le passage de l'enfant à l'adulte. L'impureté originelle, celle que le péché a implantée en nous, c'est celle que la parole de Dieu vient corriger. Mais il vient de souligner cette vérité essentielle, c'est le fait de suivre les penchants mauvais du cœur humain qui rend l'homme impur. Le fait de ne pas combattre les mauvaises pensées, de les laisser produire de mauvaises paroles et de mauvaises actions, voilà, dit Jésus, ce qui rend l'homme impur. Dès que l'être humain écoute la parole de Dieu, celle-ci commence en son cœur une œuvre essentielle, une œuvre de purification. Et c'est si vrai que Jésus peut déjà parler de la pureté qui a commencé à se manifester dans le cœur des disciples avant même que cette œuvre soit complètement accomplie. « Déjà, dit Jésus, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Merci, Seigneur, de nous rappeler cette vérité essentielle. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » a dit Jésus à ses disciples, et nous rappelle-t-il ce matin. Que le Seigneur continue à nous édifier, à nous purifier, à nous construire pour le bien par sa parole. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, dit aussi l'apôtre Pierre. Bien-aimés, nous sommes, ça c'est dans la première lettre de Jean, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous sommes purifiés par la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur. Loué soit son nom. Amen.